Heidegger a été connu du public français, surtout depuis la guerre, puisqu'en 1943 paraissait « L'être et le néant » de Jean-Paul Sartre, qui utilisait et citait abondamment « Sein und Zeit », « L'être et le temps » de Heidegger. Il y eut à cette époque tout le grand débat de l'existentialisme. Mais, dès avant la guerre, une traduction de certains textes essentiels de Heidegger, des textes qui vont bien au-delà de l'existentialisme, était offerte au public français par Henri Corbin, qui est devenu depuis le grand tyrannologue que l'on sait. Faire connaître au public un inconnu, c'est là quelque chose qui s'apparente à une prouesse. C'est quelque chose en tout cas qui demande une extrême perspicacité quand il s'agit d'un inconnu qui va devenir le plus grand philosophe de son temps. Et un certain courage aussi, tout à la fois pour imposer un nom nouveau et pour affronter les difficultés même d'une pensée et d'une langue inouïe. Henri Corbin donne maintenant son témoignage sur la manière dont il a ainsi inventé Heidegger et sur ce que Heidegger lui a apporté, bien que sa route se soit depuis lors séparée de la sienne.
Ma rencontre avec Heidegger est quelque chose de mémorable, décisive pour ma vie. Je n'en parle qu'aujourd'hui qu'avec grande émotion. Le point de départ, ça fut sans doute mes séjours en Allemagne, en 1930, entre autres à l'université de Marbourg, où j'entendis pour la première fois parler de l'œuvre de Heidegger. J'ai dans les mains de bâtisse métaphysique. Je fus terriblement excité, mais je me cassais les dents, je puis le dire, pour essayer de penser ce texte en français. J'entrepris cette traduction, puis j'ai eu une première rencontre avec Heidegger à Freiburg en avril 1934, et puis à ce moment-là, nous esquissâmes ce que pourrait être un florilège. Un choix des textes les plus significatifs de son œuvre. En ce qui est en titre, nous avons passé à ce moment-là quelques jours à Freiburg, où j'ai vraiment de longues entrevues avec Heidegger, dont je garde un souvenir inoubliable. Nous parlâmes d'un tas de choses, et en particulier un témoignage que je puis apporter, c'est que, comme son traducteur, je m'inquiétais évidemment de la seconde partie de Sein und Zeit. Or, je l'ai vu. Lorsque je lui ai posé la question, il m'a montré sur sa table une gaine remplie d'un manuscrit volumineux. Il m'a dit, la seconde partie, la voilà. Ce qu'elle est devenue depuis, ça, à d'autres qui ont eu plus récemment des contacts avec ce maître, de le dire. Enfin bref, ce recueil qui comprend, comme vous le savez, des traités, des opuscules intégraux et des extraits de Sein und Zeit et de Livre sur Kant, comme paru en juin 1938. Il m'est arrivé de lire, je ne sais plus où, mais j'ai lu ça quelque part, que, déçu par Heidegger, sa philosophie, je m'étais tourné vers le soufisme. C'est une interprétation biographique complètement fausse. Je tiens à rétablir les faits. Car mes premières publications sur Sohavari, grand philosophe mystique iranien à qui je consacrais une grande partie de ma vie, sont de 1933 et de 1935. Ma traduction de Heidegger est de 1938. Par conséquent, je conjoignais dès cette époque l'intérêt pour les deux domaines de recherche, les deux champs de recherche. Il semble, voyez, que pour les non-philosophes, ce soit très difficile de comprendre les étapes que suit un philosophe. À vrai dire, voyez, je ne suis et ne fus ni un germaniste, ni même un orientaliste. Je fus et je suis un philosophe, accomplissant sa quête là où l'esprit le guide. Et si cet esprit m'a guidé, voyez, à Freiburg d'abord, ensuite jusqu'à Téhéran et Isfahan, je crois pouvoir dire qu'en effet, ces villes sont pour moi restées ce qu'on appelle des villes emblématiques. Il s'est passé, déjà, vous voyez, l'apparition de cette anthologie en 1938 précédait de 3 mois les événements de Munich. Ils nous ont donné un très court répit avant le déchaînement de la Seconde Guerre mondiale, qui nous a tous dispersés et a fixé nos destins sur des voies que nous ne travaillons pas les uns et les autres. Si mon œuvre fut ce qu'elle fut, si je ne suis pas un historien, mais d'abord un phénoménologue, je le dois à cette extraordinaire et incomparable analyse de Heidegger, différenciant ce que j'ai traduit à l'époque comme l'historialité
de la présence humaine et l'historicité au sens courant du mot. Cela me sera l'occasion également de dissiper certains graves malentendus. Je n'ai pas confondu la dialectique heideggerienne avec l'œuvre de mes métaphysiciens islamiques. La rencontre fut tout autre, j'espère, la rendre compréhensible aux philosophes. Mais je crois que ce témoignage, il était toute autre considération mise à part, il est de mon devoir de le rappeler et de le formuler aujourd'hui.
Henri Corbin, vous avez donc traduit le premier Heidegger en France en 1938, mais étiez-vous le seul à le connaître à cette époque? Et comment votre recueil a-t-il été reçu à cette époque?
Donc, nous étions quelques-uns, une poignée à le connaître. Mais je crois que je mettrai, n'est-ce pas, en avant surtout le souvenir d'un très cher vieil ami, qui était Alexandre Coiré. Alexandre Coiré, dans l'affaire l'éloge de son œuvre de philosophe, nous devons un ouvrage monumental sur Jacob Boehme, celui qui nous a fait connaître les spirituels du protestantisme. Sa formation était d'origine russe et puis germanique. Et il est certain que pour mon contact avec la phénoménologie et la traduction de Heidegger, il m'a été d'une aide incomparable. Les rapports étaient ensuite, après 1933, vous le devinez, devenus un peu plus difficiles. Nous sommes efforcés de rester uniquement et purement des philosophes.